France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Ils sont quelques 20 000 dans le froid et la boue, agglutinés à la frontière qui sépare la Grèce de la Turquie. Ils sont 900 000 au moins au nord-ouest de la Syrie à vouloir atteindre le territoire turc, pris sous les feux croisés de l'aviation russe, de l'armée syrienne et des bombardements turcs. Les réfugiés sont une arme de guerre, voilà qui n'est pas nouveau, mais décidément, au-delà du drame humain qui prend des proportions effroyables, la Syrie est un bourbier où s'enlisent ceux-là même qui veulent y ancrer leur influence. Pris au piège de ses ambitions régionales et de leurs conséquences migratoires, Erdogan, le président turc, exige le soutien de l'Union européenne sous peine d'ouvrir les vannes. Poutine, lui, indifférent aux coûts humains, veut calmer le jeu. Échaudés par le cauchemar de 2015, les Européens tentent de ménager à la fois Athènes et Ankara, tout en évitant de se diviser davantage. Le ballet diplomatique a été intense tout au long de cette semaine. D'une réunion d'urgence à l'autre, la situation ce matin paraît figée. Jusqu'où le Kremlin et Ankara respecteront-ils la trêve qui vient d'intervenir à Idlib ? Que faire de tous ceux à qui la Turquie a promis l'Eldorado européen quand la Grèce et ses îles sont déjà débordées? Quelle est la marge de manœuvre de Bruxelles? Comment concilier les attentes du président turc, du premier ministre grec et la fébrilité de certains États membres? Quand sortira-t-on de l'impuissance? À la fin, est-ce Poutine qui gagne et l'Europe qui paie? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Alexandra de Hoopscheffer, vous êtes politologue, vous dirigez à Paris le bureau du German Marshall Fund. Cécile Maranger, vous êtes chercheuse au sein de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Merci d'être avec nous. Avec nous par téléphone, Georges Prevelakis, vous êtes à Athènes. Vous êtes professeur émérite de géopolitique à la Sorbonne. Avec nous aussi par téléphone, et je l'en remercie, Sinan Ülgen. Sinan, vous présidez le think tank EDAM, qui est un think tank turc, mais vous êtes ce matin à Bruxelles. Et par téléphone aussi, mais de Poitiers cette fois, Olivier Clochard, chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Migrinter à l'université de Poitiers, et vous êtes, Monsieur Clochard, membre du réseau européen Migre-Europe. Et c'est avec vous que je voudrais commencer pour comprendre ce qui se passe ce matin même sur ces deux frontières critiques. Donc commençons par la frontière gréco-turque, qui fait, je crois, 212 kilomètres de long. Et d'après ce qu'on apprend, il y a eu des tirs de gaz lacrymogènes balancés par les Turcs contre les douaniers ou les policiers grecs. Mais qu'en est-il de la situation des migrants et des réfugiés?
Alors, concernant effectivement la situation, alors pour vous parler de ce matin, ça sera peut-être un peu difficile, mais de ce que nous on observe, notamment au sein du réseau Migre-Europe, c'est effectivement qu'on a des violences répétées là, depuis des semaines, on pourrait dire voire même depuis des années, par les polices présentes qui ont entraîné la mort d'un enfant de 4 ans. Un autre exemple aussi, un homme aussi a été abattu par un tir à la frontière entre la Turquie, et tout ça, c'est effectivement, c'est assez symptomatique des politiques meurtrières que l'Union européenne et ses États membres mènent aux frontières de l'Union européenne. Hein, pour rappeler quelques chiffres, 750 morts en 2015, 430 en 2016. Et donc tout ça. Et aujourd'hui, c'est amplifié avec l'agression des migrants, mais aussi des aidants, par les forces d'extrême droite, notamment ce mouvement Aube Dorée.
Et, oui, mouvement grec.
Et on voit bien que, je dirais, que le gouvernement grec, et d'une certaine manière aussi, l'Union européenne ferme les yeux et, je dirais, renie les valeurs fondatrices de l'Europe, à savoir d'accueillir ces personnes dans des conditions, je dirais, dignes et correctes, et non inhumaines et dégradantes, comme c'est le cas actuellement. Hein, simplement.
Mais néanmoins, pardon, je vous interromps, c'est évidemment le président turc qui a, à coup de propagande absolument honteuse, poussé quelques 20 000 personnes, parmi lesquelles, semble-t-il, très peu de Syriens. Des Afghans, des Irakiens, des Iraniens, des familles, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, en disant « oui, allez-y, ça y est, l'Europe est ouverte ». Erdogan, qui par ailleurs, ce matin, annonce qu'il a demandé à ses propres gardes-côtes d'empêcher les migrants d'essayer de traverser la mer Égée, sous prétexte que c'est dangereux. Donc, on voit aussi qu'il y a, du côté turc, c'est le moins qu'on puisse dire, un comportement véritablement honteux.
Oui, honteux effectivement du côté turc, mais aussi on peut rappeler quand même quelques chiffres, c'est que aujourd'hui en Turquie on a près de 3,3 millions de Syriens qui sont en Turquie, hein, autant que l'ensemble des personnes réfugiées, toutes nationalités confondues dans les 27 unions de l'Union Européenne. Ouais. Donc effectivement la Turquie fait face aujourd'hui quand même à une situation, et depuis longtemps, notamment depuis 2011, et si on élargissait le champ, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a près de 7 millions de personnes déplacées en Syrie, 1,5 million de réfugiés qui sont au Liban. Donc effectivement, l'Union européenne est loin, je dirais, d'être confrontée, je dirais, à des vagues importantes, pour reprendre ce terme-là qui est souvent employé. Donc effectivement, il y a un rôle. Alors moi, je ferai attention aux mots quand on parle effectivement que les réfugiés sont une arme de guerre. Moi, je dirais qu'ils sont quand même victimes, je dirais, des comportements des États, alors aussi bien des États turcs, aussi du premier État concerné, à savoir la Syrie, hein, et notamment de son dictateur Hafez al-Assad, Bachar el-Assad.
Bachar qui ne veut en aucun cas, semble-t-il, le retour de ces Syriens.
Puis l'Union européenne a sa part de responsabilité dans ce drame. Donc ça, moi, je pense que c'est vraiment aussi important de le rappeler, que l'Union européenne devrait, je dirais, avoir aussi un rôle et ne pas, je dirais, miser uniquement sur des déploiements qui sont essentiellement quand même sécuritaires. Et aujourd'hui, on voit bien, il y a eu quand même près de 5000 refoulements de refoulements qui se sont effectués vers la Turquie, sans prendre en compte les demandes, je dirais, de protection qui pourraient être émises par certains d'entre eux. Donc, effectivement, on voit aujourd'hui que la Grèce se refuse à enregistrer ses demandes d'asile. Donc, on a vraiment, je dirais, le droit international, des valeurs fondamentales de l'Union européenne aujourd'hui qui sont remises en cause et qui sont très graves, à mon sens.
Monsieur Clochard, merci de rester en ligne avec nous. Alexandra de Haupe, faisons le point. Quel est l'état des lieux sur le plan diplomatique et militaire dans la zone de cette frontière entre la Syrie et la Turquie, où là on a vu qu'on a été ces derniers jours presque au bord d'un affrontement armé, ou plutôt d'un engrenage entre la Russie, qui soutient à fond Bachar el-Assad dans sa reconquête du territoire, et Erdogan et les forces turques.
C'est une situation extrêmement complexe et extrêmement dangereuse. On voit d'ailleurs à quel point les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne et même l'ONU sont extrêmement embarrassés, puisque cette situation en fait nous oblige en fait à prendre position. On est en fait dans ce que je caractériserais le monde post-ligne rouge. Je pense que la séquence est plus longue.
Et la ligne rouge était
Barack Obama, bien sûr, en 2013. On se souvient tous, d'ailleurs, on était la France très impliquée aux côtés de Washington à l'époque, où Barack Obama a dit la ligne rouge, et qui déclencherait, qui changerait l'équation et qui déclencherait une action militaire, notamment des frappes contre le régime et les forces de Bachar al-Assad. Ce serait l'utilisation par Bachar al-Assad d'armes chimiques contre sa propre population. Et cela a été fait de nombreuses et nombreuses fois sans que on agisse. Et donc une fois en fait cette volte-face effectuée par Obama, c'est-à-dire de ne pas suivre cette ligne rouge et de ne pas agir, le monde a basculé dans une nouvelle ère de géopolitique. C'est-à-dire que d'un côté, les adversaires de l'Amérique ne craignent plus l'Amérique, comme ça a pu être le cas avant, puisqu'elle a perdu en crédibilité. D'ailleurs, l'annexion de la Crimée par la Russie s'est faite peu de temps après cette volte-face sur la ligne rouge en Syrie, et les deux épisodes sont étroitement liés. Et de l'autre côté, nous, alliés, eh bien, on estime qu'on ne peut plus vraiment compter sur notre allié américain, que son leadership est devenu plus imprévisible. Et donc, quand vous mettez tout ça ensemble, ce qui se passe, c'est que tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est vraiment sur fond d'une réévaluation du rôle des États-Unis dans le monde et notamment dans cette région du Moyen-Orient, cette région de laquelle ils souhaitent se retirer et notamment dans un contexte de campagne
électorale américaine. Et avec les Européens qui ont disparu. Et
bien sûr.
En fait, le drame syrien, 9 ans que ça dure.
Oui.
Un nombre de morts, près de 400 000 morts, des millions de gens déplacés, tout cela a été sous-traité à Vladimir
Exactement.
Poutine.
On est vraiment dans une politique de sous-traitance. Et quand vous avez le gendarme américain qui se retire, la conséquence immédiate, c'est que vous avez l'émergence de gendarmes régionaux. Donc vous avez d'un côté la Turquie, vous avez la Russie, mais vous avez également l'Iran, vous avez la Syrie, et puis les pays du Golfe qui jouent également un rôle sur le terrain syrien. Et
cet affrontement oui. russo-turc,
oui.
il est tout à fait paradoxal, parce que tantôt on voit Vladimir Poutine et Tayyip Erdogan qui jouent au meilleur copain dans le style homme fort, testostérone. Et en même temps, on voit sur le terrain, et ça a été très grave ces derniers jours, il y a eu plus de 50 militaires turcs tués, il y a eu aussi des morts côté syrien, et on voit que Poutine, en fait, gère son soutien à Bachar el-Assad, mais sans tout à fait aller jusqu'à la confrontation ouverte avec
exactement,
les Turcs.
Exactement.
C'est tout ça dans une poche minuscule. Et où il y a ces 900 000 à 1 million de gens qui sont pris dans...
Complètement. Et ça, c'est vraiment la politique russe que Poutine en fait déploie de plus en plus d'ailleurs au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. On a la Libye, on a la Centrafrique. C'est une manière de déstabiliser en fait le système d'alliance traditionnel. Moi, je parle de fluidité de plus en plus des alliances. On a effectivement des alliances de circonstances qui se font un peu entre la Turquie et la Russie parce que c'est une manière aussi de contrebalancer en fait la politique occidentale qui pour le moment est effectivement inexistante. Et Poutine, véritablement, ce qu'il recherche, c'est de fracturer le camp occidental et notamment la cohésion de l'OTAN. Et là, pour moi, vraiment, cette crise, c'est une des crises les plus importantes que l'Alliance connaît depuis finalement l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Et il y a quand même un déni sur ce plan-là.
Céline Maranger, venons-en à ce dernier tête-à-tête entre Vladimir Poutine et le président turc. C'était jeudi au Kremlin, des discussions qui ont duré plus de 6 heures, où, semble-t-il, Erdogan est venu quand même en position de demandeur. Et Vladimir Poutine, lui qui avait refusé une formule à 4 proposée par les Français et les Allemands, en est sorti, encore une fois, vainqueur.
Oui, d'abord je partage l'opinion qui a été exprimée sur le fait qu'on vit un moment très grave. La confrontation sur le terrain, elle est vraiment très très poussée. Hein. Je veux dire, on attendait de longue date en fait cette bataille d'Idlib. Elle a été reportée à plusieurs reprises. Elle a été remise à plus tard, d'abord grâce au processus d'Astana, aux accords d'Astana. Puis ensuite.
Auquel participait Téhéran.
Téhéran, exactement. Et puis ensuite, grâce aux accords russo-turc de Sotchi, conclu en septembre 2018. Et je pense qu'en fait, à l'occasion de ces accords, la Turquie s'était... c'est un accord de démilitarisation de cette poche d'Idlib avec la mise en place autour d'une zone tampon.
Et la zone tampon qui servirait à Ankara, à la fois... à détruire les forces kurdes syriennes qui étaient les alliés des Occidentaux contre les djihadistes. Enfin, tout ça est d'une complexité épouvantable. Et aussi...
L'engagement de la Turquie, c'était de démilitariser cette zone.
Et notamment avec l'espoir d'y relocaliser des Syriens
réfugiés sans doute aussi,
sur le territoire
sans doute
turc.
Aussi, oui. Ce qui est sûr, c'est que les combattants djihadistes qui se concentraient dans cette zone ne l'ont pas quitté et qu'en plus, ils ont évincé d'autres opposants à Bachar el-Assad qui, eux, étaient plus modérés.
Et les djihadistes inquiètent énormément
Moscou. Et donc, je pense que les cartes ont véritablement été rebattues après le retrait des forces américaines de Syrie, de la zone tampon et après, bien sûr, le début de l'offensive dans le nord-est syrien, l'offensive turque dans le nord-est syrien en octobre 2019.
Mais comment expliquez-vous qu'on a toujours l'impression que cet engrenage sur le terrain va véritablement s'accélérer et donc qu'il y aura un conflit ouvert entre Moscou et Ankara. Et puis, voilà, on s'arrête juste
personnellement,
au bord du pire.
Personnellement, je pourrais m'en expliquer plus tard. Je ne pense pas qu'il y aura un conflit ouvert entre Moscou et Ankara. Mais c'est vrai que les hostilités ont repris de plus belle depuis décembre 2019, que les forces gouvernementales syriennes, elles poussent leur avantage. Leur objectif, c'est quand même c'est de reprendre cette poche, de reprendre aussi le contrôle des autoroutes M4 et M5 et finalement de se débarrasser des derniers combattants rebelles et en particulier des djihadistes. Et sur cette zone, les bombardements se sont intensifiés fortement. Ils sont pour la plupart du temps indiscriminés. Ils ont jeté sur les routes des centaines de milliers de personnes. Hein. On parle de selon le HCR, il y aurait près d'un million de gens qui ont pris la route. Et ce sur quoi, à mon avis, il faut insister, c'est que la situation était extrêmement tendue sur le terrain.
Mais alors, ce qui a été négocié à Moscou,
mais je voudrais juste bien expliquer peut-être avant, juste en quelques mots, ce qui se passe sur le terrain. C'est qu'en fait, des détachements des forces gouvernementales syriennes qui sont appuyées par la Russie et l'armée turque qui vient en aide à ces groupes djihadistes rebelles, notamment qui sont pour certains issus de Al-Nusra, échangent déjà des tirs d'artillerie en fait. Donc il y a déjà une confrontation armée interposée. Et la position de faiblesse d'Erdogan aujourd'hui, elle s'explique dans la négociation, elle s'explique aussi par la situation sur le terrain. C'est-à-dire que les forces turques et pro-turques, elles sont en très mauvaise posture. Les forces armées du gouvernement de Damas, ils ont l'avantage en fait sur le terrain. Ils ont réussi à reprendre 20 localités, ils ont réussi à reprendre une partie de la route M5, même s'il y a
Mais alors justement, 6 heures de négociations à Moscou, une trêve, est-elle une trêve intervenue en fait hier? Est-ce qu'elle a des chances de tenir? D'après ce que l'on peut lire du côté des experts russes, rapporté en tout cas dans les journaux de ce matin, non, personne n'y croit.
En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, elle tient. Enfin, je veux dire, tout est très précaire.
Oui, ça fait 24 heures.
Ce qui est sûr, c'est que les négociations étaient extrêmement difficiles, que Erdogan est en position, disons, de faiblesse, on peut le dire. Les deux présidents se sont parlé en tête à tête pendant 3 heures. À la suite de ça, il y a encore eu 2 heures d'entretien avec les délégations. Donc, ce sont des négociations difficiles. Ce qu'il en est ressorti, et toutes les négociations qui avaient eu lieu auparavant à des niveaux inférieurs avaient échoué. Mmh. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont réussi. Enfin, ce qui est sûr. Ce sur quoi ils se sont entendus, il y a 3 points. D'abord, l'instauration d'un cessez-le-feu qui, pour l'instant, tient. Mmh. Plus ou moins. Deuxièmement, la création d'un corridor de 12 kilomètres de large, 6 kilomètres en fait de part et d'autre de l'autoroute M4 qui relie la Syrie, le nord de la Syrie en fait à Latakia. Latakia étant le fief en fait, la région de la famille Assad, mais aussi le lieu où se trouve une base aérienne russe très importante à Ermin. Et puis la dernière chose qu'ils ont réussi à négocier, à mon avis, c'est là-dessus que les choses pourraient se jouer, c'est que normalement, il devrait y avoir la mise en place de patrouilles russo-turques dans cette zone de 12 kilomètres.
Voilà, donc des patrouilles communes. Sinan Ulgen, merci d'être avec nous par téléphone. Je rappelle que vous dirigez le think tank EDAM à Istanbul. Vous êtes ce matin à Bruxelles. Expliquez-nous donc les priorités du président turc. Selon vous, pour lui, cet accord a obtenu à Moscou est quand même une victoire relative.
Je ne parlerai pas de victoire à vrai dire, mais puisque ça a été une négociation très difficile et l'accord final est, comme l'a souligné Alexandra, est très précaire. Par contre, l'avantage, c'est quand même d'arriver à un accord qui souligne, qui met en vigueur un cessez-le-feu. Ça, c'était important du côté turc, parce que sur le volet militaire, les troupes turques à Idlib se trouvent vulnérables à cause de la manque du contrôle de l'espace aérien. Ça, c'est la grande vulnérabilité de la tactique militaire de la Turquie. C'était important pour Ankara d'arriver à un trêve, même si ceci devient temporaire. Et probablement, elle va être temporaire parce que finalement, les points de vue russes et turcs sur le futur de la de Idlib sont irréconciliables. La Russie souhaite que le régime syrien puisse contrôler tout ce territoire-là, et il souhaite aussi se débarrasser des groupes rebelles, y compris djihadistes, à cette occasion. Alors que du côté turc, la Turquie souhaite entretenir une présence militaire sur Idlib pour, premièrement, empêcher une vague humanitaire, qui a déjà été le cas, et deuxièmement aussi pour soutenir ses alliés sur le terrain, pour finalement avoir un levier diplomatique pendant les négociations ou sur le futur politique de la Syrie.
Mais Sinan, pardon, je vous interromps, mais on a l'impression que le président turc, furieux de ne pas obtenir un soutien européen et occidental dans sa politique syrienne, c'est la raison pour laquelle il a déclenché ce qu'il faut bien appeler le chantage migratoire à l'adresse de l'Union européenne.
Oui, cette carte qui a été jouée juste avant la réunion de Moscou vise finalement à faire bouger l'Union européenne sur certains points critiques pour la Turquie. Premièrement, c'est d'avoir un soutien diplomatique et politique plus fort parce que la Turquie est en train d'avoir une négociation très tendue et difficile avec Moscou. Deuxièmement, pour aussi faire pression sur les gouvernements européens, qu'il faut être beaucoup plus solidaire avec la Turquie sur la question des réfugiés. Je pense que l'accord réfugié qui avait été conclu en mars 2016 est en danger parce que finalement la position de l'Europe qui était en fait de sous-traiter ce problème-là à la Turquie est arrivée à ses limites. Maintenant, il y a 3,6 millions de réfugiés syriens en Turquie. Et en plus, à cause de la crise à Idlib, il y a au moins un scénario que la Turquie serait poussée à ouvrir ses frontières pour encore 1 million de réfugiés syriens. Et c'est ce scénario-là qui inquiète vraiment le gouvernement turc. Et c'est aussi une préparation pour dire à l'Europe que si on est confronté à ce type de crise humanitaire, l'Europe doit faire beaucoup plus que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Donc ça a été une tactique pour amener l'Union européenne à penser un peu plus directement et ouvertement sur ce problème-là. Et vu maintenant le trafic diplomatique, c'est difficile à arguer que cette carte a totalement échoué.
Certes. Sinan Ulgen, merci de rester avec nous en ligne. Quelques minutes encore, je voudrais demander à Alexandra de Hoopscheffer, l'autre carte que le président turc a essayé de jouer, et celle-là n'a pas fonctionné, c'est vis-à-vis de l'OTAN, en disant « soutenez-moi en Syrie ». Puisque, bien évidemment, c'est aussi, je suis membre de l'OTAN, membre fondateur, et là, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est un moment particulier, puisque il y a eu effectivement ce rapprochement turco-russe. La Turquie, notamment, a contrarié son allié américain, mais aussi les membres de l'Alliance, en achetant les fameux S-400 russes. Donc, ce système de défense antimissile qui a fait que les États-Unis ont suspendu la Turquie du programme F-35, est quand même un programme très, très important et dans lequel la Turquie était censée être très impliqué. Et donc là, effectivement, on a une situation où la Turquie, finalement, se rend compte, en fait, des bénéfices qu'elle retire de son appartenance à l'OTAN.
Oui, sinon là, il y a eu une réunion de concertation.
C'est ça, et elle a déclenché donc l'article 4. Donc cet article 4 que tout allié peut déclencher, c'est un article qui déclenche en fait des consultations entre alliés quand un pays membre de l'OTAN estime que son intégrité territoriale, son indépendance ou sa sécurité est mise en péril. Et nous, la France, on aurait très bien pu le faire il y a quelques mois quand, par exemple, Trump a décidé sans nous concerter qu'il allait retirer les forces américaines de Syrie, puisque ça mettait à mal aussi notre sécurité.
Mais là, encore une fois, la réaction des partenaires de l'Alliance Atlantique a été extrêmement tiède.
Alors, extrêmement tiède, hein, puisque le problème, c'est que si on escalade effectivement dans une confrontation turco-russe, hein, que vraiment on a un conflit direct, hein, là, la question se pose, est-ce que c'est un objet d'article 5, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on va déclencher l'article de défense collective? Et ça, l'OTAN, pour le moment, ne veut absolument pas l'envisager. Donc ça, c'est une option. L'autre option qui est en train d'être discutée, mais là aussi, la réponse occidentale est extrêmement timide, c'est cette fameuse zone tampon ou zone d'exclusion aérienne, qui est en fait une question qui ressort régulièrement depuis en fait 2012. Le seul ministre des Affaires étrangères qui a proposé cette option, c'est le ministre des Affaires étrangères néerlandais. Et cette proposition a été reçue par Borrell, donc le haut représentant pour la diplomatie européenne, en disant c'est de la magie, l'Union européenne ne peut pas faire de la magie, il est hors de question que l'on instaure une zone d'exclusion aérienne. Donc on voit que les options, en fait, hein, elles sont là, mais que l'OTAN, aussi bien que l'UE, mais également les Nations Unies, qui sont quand même relativement absentes de la question, ne souhaitent pas s'impliquer plus. Et tout ça, encore une fois, dans un contexte, et j'insiste beaucoup là-dessus, vraiment de retrait partiel des Américains, à la fois de ce qu'on appelle la diplomatie de crise, mais également de la gestion de crise militaire. Et on voit que quand le gendarme se retire, eh bien, l'Union européenne ne suit pas, l'OTAN n'arrive pas à coordonner ses réponses, et donc on a un vide de solutions et de stratégies. C'est extrêmement lié à vraiment ce leadership américain qui ne souhaite plus s'impliquer.
Sina Nulgen, par rapport à ce vide dans lequel s'est installé en force Vladimir Poutine et dans lequel s'installe aussi à sa façon le président turc, jusqu'à quel point pour Ankara il y a le risque quand même d'une fuite en avant sans avoir les moyens de ses ambitions régionales?
Effectivement, il y a une hostilité ouverte à Idlib entre d'un côté l'armée turque et de l'autre côté le régime syrien qui a le soutien de la Russie. Ceci dit, Poutine et Erdogan sont aussi conscients que ce type de désaccord sur le terrain syrien ne devrait pas totalement éliminer la convergence diplomatique qui a eu entre ces deux pays-là depuis novembre 2015, qui était la date où la Turquie avait fait tomber un avion russe. Oui. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut aussi un peu interpréter le résultat de l'accord du cessez-le-feu qui a eu lieu à Moscou. C'est cette volonté de garder ce lien diplomatique et cette tendance de rapprochement qui va toujours, si vous voulez, peser sur les relations dans le futur. Donc ce risque d'avoir une hostilité directe entre la Turquie et la Russie, je pense pas, c'est assez improbable.
Mais quand on regarde maintenant l'autre volet de la politique de M. Erdogan, c'est-à-dire, comme vous nous l'expliquiez, la pression qu'il met sur l'Union européenne en disant voilà, j'ai plus de 3 600 000 réfugiés sur mon territoire, il y a cette menace d'une nouvelle vague migratoire si la poche d'Idlib craque. Est-ce que vis-à-vis de Bruxelles et des 27, est-ce que vous estimez que le président turc est en position de force, ou est-ce que la réponse et le soutien manifestée par les dirigeants européens à la Grèce, là aussi montre les limites de sa politique.
Je pense que la réaction immédiate de l'Union européenne à ce type d'action du côté turc a été d'être solidaire avec la Grèce. C'est ce qui a été aussi souligné lors du communiqué après la réunion d'INI, vendredi, donc hier. Mais ceci dit, je pense qu'il serait prématuré de juger que ça sera la réaction finale de l'Union européenne. Je pense que, et d'ailleurs, lundi, donc dans deux jours, le président turc sera à Bruxelles pour discuter avec le Conseil toute cette diplomatie. Je pense que la réaction donc de l'Union européenne à terme serait d'être plus constructif, de voir un peu comment elle pourrait aider, être solidaire aussi avec la Turquie, parce qu'il y a déjà un cas moral et humanitaire très prononcé. Et d'autre part, la Turquie souhaite aussi avoir le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN pour les négociations qui vont durer avec la Russie. Donc la Turquie souhaite se sentir plus fort quand elle est en train de négocier avec Moscou. Donc il y a plusieurs chemins, à vrai dire, où l'Union européenne pourrait s'engager pour être solidaire avec la Turquie, pour aider la Turquie, soit du côté humanitaire, soit du côté diplomatique, mais aussi finalement considérer ce qui a été déjà prononcé par la chancelière Merkel, qui est d'avoir un rôle sur l'établissement des zones de sécurité à Idlib et en Syrie.
Sinan Ülgen, merci mille fois pour ces éclairages. Prenons le chemin maintenant d'Athènes pour vous rejoindre, Georges Prevelakis. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de géopolitique à la Sorbonne. Merci mille fois d'être avec nous par téléphone. Vu d'Athènes, la situation à la frontière ce matin est toujours extrêmement tendue.
Je pense que la situation est en train de s'améliorer légèrement. Mais bien sûr, du côté grec, on a le sentiment d'avoir à gérer une situation extrêmement difficile et grave qui n'est pas, si vous voulez, un problème entre la Grèce et la Turquie, mais un problème entre la Turquie et l'Europe. Donc la Grèce devient l'interface entre deux ensembles, d'un côté la Turquie et plus généralement cette instabilité que vous avez déjà décrit. C'est une incertitude qui existe dans toute cette zone et ensuite un ensemble occidental européen qui cherche un peu ses repères, qui ne sait pas très bien encore comment gérer ces problèmes malgré une première réaction qui a été assez étonnante, je veux dire la présence de tous les dirigeants de l'Europe, un geste symbolique très fort. Assez surprenant par rapport à ce que nous avons comme expérience de ce qu'on pourrait appeler une politique étrangère de l'Union.
C'était mardi dernier, la présence au poste frontière principal à la frontière gréco-turque de Madame von der Leyen, de Charles Michel, qui est le président du Conseil européen, et aussi du président du Parlement européen. Donc ça, aux côtés du Premier ministre grec, Mitsotakis, qui est donc à la tête du gouvernement conservateur depuis juillet dernier. Donc la multiplication aussi, Georges, de ces déclarations de soutien, il y a eu celle aussi des ministres des Affaires étrangères. Et il est à noter que certains pays d'Europe centrale ont aussi manifesté leur soutien à la Grèce. Et donc ça, là aussi, c'est nouveau.
Oui, bien sûr. Du côté grec, c'est quand même, si vous voulez, un pas en avant dans le sens où on reconnaît que le problème n'est pas grec, c'est un problème européen. Et en fait, la Grèce est prise en otage aussi. C'est-à-dire, il y a la prise en otage de ces populations qui ont été, d'une certaine manière, envoyées pour jouer ces rôles de pression, Mais la Grèce aussi est prise en otage dans cette relation difficile entre l'Europe et la Turquie. Donc le fait qu'il y ait cette mobilisation de chefs européens montre que cette situation difficile de la Grèce est reconnue et donc
certes, situation difficile, mais il faut aussi reconnaître que la gestion grecque a été catastrophique. La Grèce a quand même reçu depuis 2015 2,4 milliards d'euros. Il y a, je crois, 80 000 demandeurs d'asile en attente parce que les traitements de leurs demandes a été suspendu et le nouveau gouvernement Mitsotakis a durci la politique d'asile avec une situation dans les îles du Dodécanèse, les grandes îles qui font face à la Turquie, qui est absolument épouvantable.
Écoutez, il y a un héritage extrêmement lourd du nouveau gouvernement. À mon avis, le nouveau gouvernement agit avec beaucoup plus d'efficacité, avec beaucoup plus de vision que le gouvernement précédent. On ne peut pas résoudre les problèmes, ces problèmes extrêmement graves dans quelques mois. C'est extrêmement lourd. Il faut prendre en compte aussi le fait que les populations des îles sont sous une forte pression. Je pense que on a reconnu quand même une attitude très humaine des habitants des îles.
Au début,
qui est liée au fait que on a, en tant que Grec, on a aussi une expérience d'avoir été des réfugiés, d'avoir été des migrants. Mais il y a toujours des limites quantitatives.
Georges Prevelakis, je vous interromps quelques minutes, restez en ligne avec nous s'il vous plaît, parce que je voudrais demander à Olivier Clochard, je rappelle Monsieur Clochard que vous appartenez au réseau européen Migre-Europe, spécialiste donc des problèmes de migration. La manière dont le gouvernement grec fait face à un nouvel afflux de réfugiés, parce que je crois que la Grèce est redevenue l'an dernier le premier pays d'entrée, c'est moins maintenant l'Italie et l'Espagne, c'est à nouveau la Grèce. Donc du point de vue des ONG et des organisations qui suivent les mouvements migratoires, comment est-ce que la politique grecque fait face?
Mais disons que nous, au sein du réseau Migre-Europe, mais on n'est pas la seule ONG, moi je parle au nom de Migre-Europe, on n'arrête pas de rappeler effectivement par rapport notamment aux déclarations qui ont été faites par Charles Michel ou Ursula von der Leyen, qui ont quand même une réponse principalement sécuritaire et qui parlent très peu sur l'accueil des réfugiés. Il y a une directive européenne qui date de 2001 et qui n'a jamais été appliquée. Cette directive européenne de 2001 avait été mise en place suite à la guerre qui s'était déroulée au Kosovo en 1999 et qui était destinée à accueillir en cas d'afflux massif des personnes et de leur octroyer un titre de séjour provisoire le temps qu'effectivement la situation s'améliore. Et cette directive, elle existe. C'est un instrument juridique important au niveau du droit européen et à ce jour, rien n'a été fait. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, que le choix politique qui est fait par les autorités européennes et par les États membres, vous parliez de soutien tout à l'heure, effectivement, c'est vraiment d'aller vers une réponse sécuritaire et c'est de pas du tout aller vers une réponse, je dirais, de solidarité. Et je trouve que c'est vraiment, ça montre quand même énormément de difficultés aujourd'hui dans cette gestion et on voit bien qu'en termes de solidarité, notamment aussi sur le plan de la relocalisation, chose qui avait été prévue notamment à partir de 2015, que ça ne fonctionne absolument pas.
Oui, il faut rappeler que dans l'accord conclu avec la Turquie, donc l'accord qui a été négocié en 2015 et signé en mars 2016, c'était la règle, je crois, du 1 plus 1, c'est-à-dire que pour... Alors, un réfugié ou un migrant plus exactement qui retournerait en Turquie, qui serait repris sur le territoire turc, un Syrien réfugié politique, c'est toujours cette très difficile distinction à faire entre les réfugiés et les migrants économiques, mais donc un Syrien serait relocalisé dans un pays de l'Union, et cette règle-là, Olivier Clochard, elle a pratiquement pas été appliquée. Il y a eu très très peu de relocalisation.
Alors il y a deux choses autour de cet accord UE-Turquie. Il y a effectivement, je dirais, la relocalisation. Alors ce qu'on appelle par relocalisation, c'est effectivement des personnes qui sont arrivées en Grèce et qui seraient réinstallées dans un autre pays de l'Union européenne. Et ça, on voit que ça n'a absolument pas fonctionné, qu'il y a eu énormément de réticence de la part des autres États membres. Et aussi autour de cet accord UE-Turquie, il y avait des réinstallations qui devaient s'opérer effectivement depuis la Turquie, parce qu'il faut rappeler aussi que la Turquie, quand même, dans une situation assez singulière, dans le sens, au sens de la Convention de Genève de 1951, elle a une restriction géographique dans le sens où toutes les personnes qui proviennent d'un pays hors de l'Europe, eh bien, c'est pas la Turquie qui va instruire les demandes d'asile, mais ça va être le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui va instruire la demande d'asile, qui va leur accorder plus ou moins un titre de séjour temporaire, le temps que ces personnes soient réinstallées. Alors parfois, on peut avoir aussi des accords qui s'opèrent, je dirais parfois de manière temporaire pour des personnes, ça a été le cas pour les Syriens, mais une grande partie des personnes qui sont en Turquie sont dans l'attente de réinstallation et sont dans des situations quand même assez difficiles. Il faut rappeler quand même que le régime turc aujourd'hui est quand même marqué par, un penchant très autoritaire et effectivement qui ne facilite pas, l'intégration de ces personnes-là au sein de ce pays-là, au vu du nombre notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes. Et après, il y a encore aujourd'hui, de timides avancées, notamment sur, on parle de la question des mineurs non accompagnés ou certains pays...
Oui, alors les mineurs non accompagnés, là, l'Allemagne serait prête à en accueillir 5000 et dans un récent sondage qui remonte, je crois, aux deux derniers jours, il y aurait, pour être précis, 76% d'Allemands qui seraient prêts à accueillir de nouveaux réfugiés et ou migrants, à condition qu'il y ait des quotas de... les quotas, c'est un mot à éviter, mais en tout cas une répartition dans d'autres pays membres. Merci beaucoup Olivier Clochard d'avoir été avec nous par téléphone depuis Poitiers. Retournons à Athènes, Georges Prevelakis. Vous nous disiez à quel point pour la population des îles du Dodécanèse, la pression, la situation est devenue extrêmement difficile et on voit à quel point d'ailleurs cette population qui avait cette tradition d'hospitalité se retourne maintenant et chasse en particulier les humanitaires.
Oui, il faut pas généraliser les humanitaires aussi. Enfin, il y a plusieurs types d'humanitaires et plusieurs. Vous savez, le problème, je pense, plus généralement, c'est qu'on regarde sous l'optique humanitaire ou sur l'optique juridique, mais ce qui a été révélé avec la crise de ces derniers jours, c'est que les réfugiés deviennent un instrument. Donc, il y a un lien, une articulation avec toute une série d'autres enjeux géopolitiques. Alors, il y a ce que nous avons, je pense, assez bien compris, c'est-à-dire les réfugiés comme instrument de pression envers l'Union européenne. Il y a aussi les réfugiés comme un instrument dans les tensions et les enjeux gréco-turcs, qui sont multiples, comme on sait. Donc il y a tous ces strates qui créent une situation presque impossible, très difficile. Bien sûr, les vraies victimes sont les réfugiés, qui sont instrumentalisés par tout le monde dans différents contextes, dans différents enjeux, ce qui signifie que la politique suivie par chaque acteur, notamment dans ce cas par le gouvernement grec, doit être un équilibre entre plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper, bien sûr, de l'aspect humanitaire, il faut s'occuper aussi de ce qui se passe avec les sociétés locales, il faut s'intéresser, c'est très grave, de la possibilité d'exploitation de ces situations par des forces extrémistes, par l'extrême droite. Alors donc, il faut vraiment essayer de trouver un équilibre entre ces différents domaines, ce qui rend la tâche extrêmement difficile.
Une dernière question, Georges Prevelakis. À votre avis, est-ce que il faudrait être plus ferme, sinon plus dur, vis-à-vis du président turc?
Écoutez, là, je pense que nous sommes devant un très grand dilemme en tant qu'Européens, parce que D'un côté, bien sûr, ces comportements turcs très souvent très agressifs, et la Grèce l'a vu aussi dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, notamment en ce qui concerne les revendications de l'espace maritime. Ça nous choque. En même temps, il y a aussi un autre grand risque. Je pense que ces comportements turcs sont en grande partie motivés par la peur d'une déstabilisation interne. Il faut rappeler qu'il y a eu un coup d'État, une tentative de coup d'État il y a quelques années. Donc bien sûr, il y a aussi un autre scénario très grave, ce serait transformation de la Turquie en une Syrie en plus grand. Donc il faut vraiment qu'on se rende compte sur le plan européen que nous avons devant nous un problème extrêmement grave, très dangereux pour la stabilité de l'Europe. C'est pas un problème marginal, avec des choix à la fois géopolitiques et moraux qui sont extrêmement difficiles, et ça mérite une concentration, une attention, une étude beaucoup plus approfondie. C'est pas tellement la question d'une gestion du jour au lendemain, ça c'est nécessaire, mais on doit envisager la question turque à plus long terme. Je dirais que nous sommes revenus à la question d'Orient. On revient à des problèmes anciens qui avaient provoqué une très grande difficulté, une très grande déstabilisation au niveau européen. C'est pas un problème régional, c'est un problème qui va devenir un problème européen. Et ça mérite une réflexion, ça mérite une véritable politique turque du côté européen.
Merci mille fois Georges Prevelakis pour vos analyses. Le ministre grec des migrations vient d'annoncer sur une chaîne de télévision grecque l'ouverture de deux nouveaux camps provisoires d'accueil pour les centaines de migrants arrivés ces derniers jours, deux camps fermés dans la région de Serres, qui est au nord de la Grèce, et dans la région d'Athènes. Céline Maranger, Georges Prevelakis vient de rappeler, en fait, le réveil de la question d'Orient. Et la question d'Orient, c'est aussi la rivalité ancestrale entre la Russie des Tsars et l'Empire ottoman. Jusqu'à quel point, vu de Moscou, la question turque reste extraordinairement préoccupante? Et aussi la question des infiltrations et des migrations vers le Caucase, les djihadistes, vous le rappeliez tout à l'heure, qui sont toujours donc au nord-ouest de la Syrie. Donc on voit bien que pour Vladimir Poutine aussi, c'est un problème à plusieurs composantes.
Oui, ça a déjà été dit. Je pense qu'ils ont vraiment les présidents Poutine et Erdogan ont des visions tout à fait opposées de l'avenir de la Syrie et du rapport à établir avec ces groupes. La partie russe est virulemment opposée à tous les groupes armés djihadistes, quels qu'ils soient, parce qu'ils considèrent...
Ça, les Européens aussi.
Oui, mais en fait, ils considèrent que ces groupes font peser une menace sur la Syrie, mais aussi sur toute la région et sur tout le sud de la Russie, parce qu'en fait dans leur esprit, si vous voulez, il existe un continuum de sécurité entre le Caucase du Nord, le Caucase du Sud, la Turquie et le Moyen-Orient. Je pense que c'est une des raisons principales pour la... C'est pas l'unique raison, mais c'est en tout cas un des paramètres qui entre en ligne de compte et qui explique qu'ils soutiennent l'offensive actuelle qui a déjà fait près d'un million de déplacés. Je pense aussi que pour les dirigeants russes, ils souhaitent préserver l'État syrien et qu'ils voient en la personne de Bachar el-Assad une garantie de stabilité, même si
enfin,
pour nous, ça...
Oui,
au moins provisoirement.
Voilà, qu'on se rappelle de Bachar el-Assad arrivant quand même assez
penaud
à Moscou,
oui,
et traité quand même par Vladimir Poutine comme... Voilà, comme un factotum.
Oui, mais si vous voulez, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que Ankara, non seulement a soutenu politiquement et militairement l'opposition syrienne depuis le début en fait de l'insurrection, mais aussi a dit à plusieurs reprises publiquement qu'il considérait Bachar el-Assad comme un terroriste. Ce sont les mots d'Erdogan, et que ils sont opposés au maintien au pouvoir du président syrien. Donc, si vous voulez, ils ont vraiment des vues tout à fait opposées sur l'avenir de la Syrie. Ça c'est sûr. Ils s'opposent aussi en Libye, ça a été dit. Je pense que Ankara cherche à créer des irritants. Hein. Le président Erdogan a fait un voyage récemment en février à Kiev, où il a rappelé que la Turquie était opposée à l'annexion illégale de la Crimée.
Et, comment expliquez-vous que la Turquie, que Ankara plus exactement, ne vise pas davantage la Bulgarie que la Grèce? Est-ce que parce que c'est frappant aussi de voir que c'est sur la frontière gréco-turque que se concentre l'offensive.
C'est peut-être lié à leur conflit ancestral. Enfin, je veux dire qu'ils ont, avec la Grèce d'autres conflits, comme l'a rappelé tout à l'heure.
Mais c'est intéressant là
oui,
aussi.
Oui, c'est intéressant. Alors, ce qui me semble important, ce que je voudrais souligner, si vous me permettez, c'est que en dépit de l'escalade militaire actuelle, en dépit de ces visions tout à fait opposées de l'avenir de la Syrie, je pense qu'il est peu probable que les tensions russo-turques dégénèrent pour plusieurs raisons. Et ça me semble vraiment important de garder.
Il y a des raisons économiques.
Alors, il y a des raisons. D'abord, à mon avis, il y a des raisons, et Alexandra l'a très bien dit tout à l'heure, il y a des raisons d'ordre militaire et stratégique. C'est-à-dire que la Turquie reste membre de l'OTAN. Elle l'est depuis 52, et même si ses relations avec l'Alliance Atlantique et les États-Unis sont dégradées en ce moment, je ne pense pas que la Russie prenne le risque de voir la Turquie activer l'article 5 sur la défense collective.
Non, mais on voit mal aussi les
par
alliés.
Ailleurs, oui, mais par
dire,
ailleurs,
oui, bien sûr, Monsieur Erdogan, vous avez les batteries russes de missiles anti-aériens.
Justement.
Mais on va vous soutenir.
Deuxième chose importante, c'est que Moscou et Ankara ont quand même opéré un rapprochement stratégique avec la vente de ce système anti-missile S-400, et que pour Ankara, en fait, il s'agissait de montrer à Washington qu'elle pouvait être indépendante et qu'elle n'acceptait pas la politique, de soutien des États-Unis aux Kurdes. Pour Moscou, évidemment, il s'agit d'enfoncer un coin dans l'Alliance Atlantique. Et puis, dernière chose sur les aspects stratégiques, il ne faut pas oublier que la flotte russe de la mer Noire, dont la principale base est à Sébastopol, c'est-à-dire en Crimée, doit passer par les détroits du Bosphore et des Dardanelles pour accéder à la Méditerranée. Or, d'après la Convention de Montreux, en cas de guerre, la libre circulation dans les détroits, elle n'est plus assurée pour les pays avec lesquels la Turquie est en guerre.
Et c'est la raison pour laquelle, semble-t-il, la semaine dernière, au début de la
semaine... Oui, ils ont fait passer beaucoup de bateaux.
Ils ont fait passer cinq navires de guerre russes chargés jusqu'à ras-bord.
Oui.
Dans la crainte, effectivement,
d'une fermeture.
Que la Turquie ferme.
Et dernier point à ce sujet, les avions de ravitaillement russes, ils passent par l'espace aérien turc. Donc, ils sont vraiment liés. Après, ça, c'était pour ce qui était des raisons...
Alors, le plan économique.
Voilà, sur le plan économique, à mon avis, ce sont les raisons principales, en fait, qui empêchent les deux pays de se brouiller durablement. Parce qu'en fait, ils ont vraiment une interdépendance économique et commerciale très importante. Et un conflit ouvert entre les deux serait trop coûteux, en fait, pour ils peuvent pas se le permettre en ce moment. Comme vous le savez sans doute, le volume des échanges commerciaux est très important, 25 milliards de dollars par an. La Turquie est une destination prisée des touristes russes, mais c'est pas tout. Et ce qui est le plus important, à mon avis, ce sont les investissements. Il y a des investissements colossaux qui ont été réalisés ces dernières années. La Russie aide la Turquie à construire sa première centrale nucléaire. Ça a été signé en 2018. Et puis surtout, les deux pays ont inauguré un nouveau gazoduc en janvier 2020, un Turk Stream, qui était auparavant South Stream, et qui relie en fait le sud de la Russie au sud de l'Europe, en passant par le territoire turc, et qui permet en fait d'approvisionner la Turquie en gaz, et en même temps d'acheminer du gaz russe vers l'Europe. Donc, si vous voulez, ils ont ces intérêts communs, je pense, les empêchent d'aller plus loin dans la confrontation.
Alexandra de Hoopscheffer, on arrive pratiquement à la conclusion provisoire. pour essayer de comprendre cette situation qui paraît inextricable et qui, encore une fois, met en jeu tellement de dimensions contradictoires, militaires, stratégiques, humanitaire, encore une fois, l'indifférence manifestée vis-à-vis du sort de ces centaines de milliers de gens déplacés, tous ces Syriens qui ont quitté leur pays, et Bachar al-Assad, manifestement, ne veut pas qu'ils reviennent. Il pratique à sa façon une forme de purification ethnique en faveur de la minorité alaouite et d'autres minorités qu'il estime plus compatibles avec la nature même de son régime. Mais véritablement, Alexandra, ce qu'il ressort de cette discussion, grâce à nos amis turcs et grecs en particulier, et grâce aussi aux éclairages d'Olivier Clochard, c'est que Vladimir Poutine est le maître du jeu.
Mm-hmm. Bien sûr, bien sûr. Et n'oublions pas que cette situation a été créée en grande partie par Washington. Je reviens toujours à 2013 et à cette ligne rouge et que Obama finalement a sous-traité le volet diplomatique et militaire à la Russie. Et donc pour conclure, moi je dirais en fait ce qu'on se prend en pleine face, si je puis dire, américain, européen, c'est l'effet boomerang de nos politiques de sous-traitance. Les Américains, l'OTAN a sous-traité le volet militaire de la crise syrienne par défaut de vouloir s'engager dans cette crise et dans cette guerre civile à la Russie, maintenant à la Turquie et plein d'autres acteurs qui se revêtent en fait du manteau de gendarmes régionaux et qui finalement leur objectif principal c'est de consolider leur sphère d'influence régionale et locale. Et nous, Européens, on a sous-traité le volet migratoire à la Turquie.
Avec l'incapacité totale de l'Union européenne, ou plutôt des 27 pays membres, de faire face à ces enjeux,
bien sûr,
de façon coordonnée, sinon harmonisée.
On a signé le pacte de crise avec la Turquie sur la crise migratoire en 2016. Ça fait 4 ans qui se sont écoulés. Pendant ces 4 ans, il n'y a pas eu de la part de l'Union européenne l'élaboration de plans d'urgence, d'anticipation, pour anticiper une autre crise de réfugiés. Et ça, c'est quand même, à mon avis, très
problématique. Et donc, pour la nouvelle commission, et Mme von der Leyen qui affichait sa volonté d'avoir une commission géopolitique. Voilà véritablement un chantier qu'il est urgent d'entreprendre. Merci à vous tous, merci à Alexandra de Hofscheffer. Vous dirigez le bureau du German Marshall Fund à Paris et vous avez signé un très très bon papier dans Le Monde il y a quelques jours, précisément sur le rôle de la Turquie dans cette situation. Merci à vous, Céline Maranger. Vous avez signé un papier excellent aussi. Dans Questions internationales, janvier février de cette année, sur la posture internationale de la Russie depuis l'annexion de la Crimée. Merci à Olivier Clochard. Monsieur Clochard, vous avez été le coordonnateur de l'Atlas des migrants en Europe chez Armand Collin 2018. Merci bien sûr à Georges Prevelakis, professeur émérite de géopolitique à la Sorbonne, et à Sinan Ülgen, président du think tank EDAM à Istanbul, à la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Jean-Guilain Meige, Hugo Boursier a préparé cette émission et comme chaque samedi, vous avez maintenant rendez-vous avec Hervé Gardette et j'aurai aussi le plaisir de vous retrouver demain matin dimanche avec Émilie Aubry puisque nous serons au Théâtre de l'Odéon à Paris pour Esprit Public. Et il n'y aura que des dames, puisque c'est le 8 mars. Très bon week-end à vous.